France Musique. Un rendez-vous en partenariat avec le magazine Marianne.
Françoise Dorin disait qu'elle ne comprenait rien à la musique, n'empêche qu'elle la connaissait de près à travers son père, le chansonnier René Dorin, avec les Branquignoles ou encore avec Jean Piat. Je vous propose d'écouter le second de nos entretiens Françoise Dorin dans Étonnez-moi Benoît, le 26 février 2011.
Oh non, ce n'est pas toi, toi qui m'as fait pleurer lorsque j'avais 20 ans. Mais non, ce n'est pas toi, ce monsieur décoré, sinistre et somnolent. Ce ne sont pas ses cheveux alignés deux par deux que je trouvais si doux. Non, ce ne sont pas ses yeux fatigués et soucieux qui allumaient des feux sur mes joues. Oh non, ce n'est pas toi qu'un début d'embonpoint semble attacher au sol. Mais non, ce n'est pas toi dont le menton rejoint sournoisement le col. Oh non, ce n'est pas vrai que mes plus beaux regrets se sont endormis là. Oh non, ce n'est pas vrai, je n'ai pas pu pleurer pour ce gros monsieur-là. J'ai pleuré pour un jeune homme, tendre et beau comme un prince charmant. J'ai pleuré pour un jeune homme qui avait des regards désarmants. Oh non, ce n'est pas toi, toi qui m'as fait pleurer lorsque j'avais 20 ans. Oh non, ce n'est pas toi, car toi tu souriais au moins en me voyant. Mais voilà, tu souris, je retrouve ce pli que j'effleurais du doigt. Je retrouve tes yeux et même tes cheveux, juste un peu moins nombreux qu'autrefois. Mais bien sûr que c'est moi, la tendre et l'ingénue, qui pleurait à 20 ans. Mais bien sûr que c'est moi, pas mieux coiffée qu'avant, avec des cheveux blancs. On est un peu moins beau, on est un peu moins fou, mais bien sûr que c'est moi. Mais bien sûr que c'est toi. Mais bien sûr que c'est nous. 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 Bien sûr que c'est nous.
Bonjour Françoise Dorin.
Bonjour.
Là, ce n'était pas vous qui chantiez. Hein.
Non, ce n'était pas moi, hélas. C'était Cora Vauquer.
C'était l'adorable Cora Vauquer, mais c'est vous qui avez écrit cette jolie chanson, à la fois tendre et un peu cruelle.
Hein. Oui, un peu mélancolique, oui.
C'est dans la demi-teinte.
Mais j'ai des angles tout à fait différents, et je l'avais écrite avec Michel Aimer, qui était le mari de Jacqueline Maillan, qui était aussi une fausse rigolote, parce que j'aime autant vous dire que dans la vie, nous étions très amis, puisqu'elle est la marraine de ma fille.
Ah, carrément.
Carrément, on était très liés. Et qu'il nous est arrivé de passer des vacances ensemble, notamment à Saint-Tropez, en pleine dinguerie de Saint-Tropez. Et nous étions sur la plage, en train de tenir... vraiment hardiment nos bretelles de soutien-gorge, parce que, oh là là, mon Dieu, qu'elles ne descendent pas les pauvres. Et... on était, mais avec des figures tellement tristes, en se racontant des choses très amusantes pour un prochain numéro de Jacqueline.
Voilà, alors justement, Michel Aimer, d'ailleurs, on l'a entendu tout à l'heure dans l'opérette 19 ans, il était tout jeune homme, là, c'était avant la guerre, mais c'était quel genre d'homme, lui
Michel?
Oui.
Apparemment, très sérieux et très triste, intérieurement,
pareil,
un peu comme nous, très gai et capable de n'importe quelle bêtise, disons, entre guillemets.
De si belles chansons, notamment pour Édith Piaf.
Oui, mais ça ne correspondait pas du tout profondément à son moral.
Voilà. Alors, je voulais aussi commencer par une chanson, tout simplement, Françoise Dorin, parce que, évidemment, on vous connaît pour le théâtre, on vous connaît pour vos romans, On vous connaît pour vos chansons, on ne sait pas forcément toujours, vous avez écrit énormément de chansons, dont des très grands succès, comme Que c'est triste Venise, pour Aznavour, C'est pas croyable, pour Patachou, Dieu, que ça lui ressemble, pour Juliette Gréco, et j'en passe,
là
Daniel Darieux,
jamais.
Lynn Renaud, etc. Vous êtes vraiment un auteur de chansons à part entière.
Mais bien entendu, j'ai cru que je le serais.
Ouais.
C'est ça qui m'a dépanné de 20 ans d'échecs. C'était déjà pas mal. Alors tout d'un coup, il y a eu cette révélation incroyable de Que c'est triste Venise.
Oui, bien sûr, oui.
Et à partir de là, j'ai cru, les gens ont commencé à me téléphoner pour me demander des chansons et j'ai cru, heureuse comme tout, que je serais quelqu'un qui fait des chansons.
Mais
dans
vous
la
l'êtes devenu de fait, en partie.
Voilà, et voilà. En partie. Et puis, à ce moment-là, ça m'a redonné courage, espoir en moi. Et quand on m'a proposé, on m'a dit, est-ce que tu n'aurais pas une pièce dans tes tiroirs?
Ah, voilà.
Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait.
La chanson qui vous a conduit au théâtre.
Mais bien entendu, parce que j'ai osé dire que depuis 12 ans, j'avais une pièce qui traînait dans mes tiroirs et que je n'osais pas sortir parce que j'étais complexée à mort.
Voilà. Et alors, le paradoxe encore plus fort, c'est que vous êtes un grand auteur de chansons et en même temps, vous dites très volontiers que vous ne comprenez pas grand-chose à la musique.
Pas grand-chose. J'ai pas dit ça, j'ai dit rien.
Rien
je ne comprends
tout.
Rien. Et je n'aime pas.
Ah, en plus de...
ah non, je n'aime pas, sauf la musique militaire.
Ah, voilà,
alors là, j'adore.
Mais comment est-ce qu'on peut avoir le sens de la chanson sans aimer la musique? Vous
ah,
exagérez
mais c'est que
un
j'en
petit
ai,
peu, je crois.
J'en ai étonné plus d'un des compositeurs, dont surtout Francis Lai, ouais. Avec lequel j'ai collaboré bien avant que nous soyons l'un et l'autre un peu connus dans ce métier, où il habitait une chambre incroyable à Pigalle, et où je me rentrais avec mes petits textes pour lui montrer, et où je revenais 8 jours après, où il avait fait une musique, et puis il m'a dit un jour, oh ben tiens, on va changer, je vais vous donner une musique, et vous allez faire les paroles. Je lui ai dit, ça me semble difficile, parce que, bon, et je lui ai expliqué mon cas, que je n'aimais pas la musique et que je ne l'entendais pas.
Ouais.
Il a beaucoup ri, mais dit pas avec les chansons que vous faites, c'est pas possible. Il a cru que je plaisantais. Or, je ne plaisantais pas. Et je lui ai dit, écoutez, si vous me donnez une musique, faites-la, mais linéaire, que vraiment les notes séparées, parce que sinon je vais pas repérer. A-t-il fait? Et il m'a donné sa chanson, sa musique telle quelle. Je l'ai emportée. Très consciencieusement, plus que consciencieusement, parce que c'était un garçon tellement formidable, et j'ai essayé.
Vous êtes mise au piano parce que vous saviez quand même lire la musique, vous aviez assez étudié pour ça.
Oui, j'avais étudié 7 ans, mais alors, mais sans aucun résultat.
On va y revenir.
Oui, et j'ai fini par, à force de l'entendre, mais au moins 100 fois, j'ai fini par faire des paroles pour lui apporter quelque chose. Et une fois les paroles devant le nez de Francis, il a essayé bien sûr de mettre sa musique dessous en jouant de l'accordéon, etc. Et puis un peu de piano, il a tout essayé. Il me dit, écoutez, c'est curieux ce qui se passe, je peux pas arriver à mettre vos paroles sur ma musique. Je lui ai dit, ça m'étonne pas du tout. Il a essayé, encore essayé. Et tout d'un coup, il a eu vraiment l'éclair. Ah oh, il m'a dit, je vois ce que vous avez fait, vous avez parolé les accords. Et c'était
parolé
vrai.
Les accords, c'est joli.
Hein. J'ai parolé les accords, mais la ligne de chant, rien.
Donc vous êtes un auteur de chansons qui n'aime pas la musique, mais qui a grandi en musique, et c'est un des sujets de notre conversation d'aujourd'hui.
Je connais sous un ciel bleu un petit pays fort aimable où chacun fait ce qu'il veut et personne n'est responsable. Il y a des chefs, des conseillers, des sous-chefs, des employés, des maires, des juges, des préfets, même un président, oui mais l'employé
s'en fout,
le sous-chef
s'en fout.
Monsieur le maire, savez-vous ce qu'il fabrique? Monsieur le maire
s'en fout,
son adjoint
s'en fout.
Le préfet, savez-vous ce qu'il fait? Le préfet
s'en fout,
le ministère
s'en fout,
tout au bout de la voie hiérarchique, souriant et doux, le président
s'en fout, tout le monde ici s'en fout de tout.
Vous
voulez-vous prendre le train ?
Divorcer avec madame.
Bercoffrer un assassin.
Envoyer un télégramme.
Si ça va bien, c'est heureux.
Si ça va mal, c'est fâcheux.
C'est pas la peine d'insister.
Car vous l'avez constaté.
Le chef de gare
s'en fout.
La postière
s'en fout.
Le gendarme, le juge, le commissaire. Messieurs les jurés, sais-je l'aurais juré, l'enturlu, à qui s'en foutra le plus. Et quand écœuré, vous allez pleurer sous les vieux murs gris du presbytère. Le curé s'en fout, sacristain
s'en fout, tout le monde ici s'en fout de tout.
Les braves gens qui voient tout ça sont fatigués d'être dupes. Chacun d'eux se croisant les bras attend que l'autre s'en occupe. Le charcutier, le pharmacien, son chargeur est bel et bien. Et le coiffeur également.
Oui, mais voilà le chien.
Charcutier
s'en fout.
Pharmacien
s'en fout.
Le coiffeur prend la vie du notaire. Le notaire
s'en fout.
Le coiffeur
s'en fout.
Dégoûté, l'homme de bonne volonté. 17 fois,
il n'y a plus que moi qui m'en fais, et j'ai tort de m'en faire. Si chacun s'en fout, moi aussi je m'en fous,
et tout le monde comme ça se fout de tout. Charcutier s'en fout, le pharmacien s'en fout, le coiffeur prend la vie du notaire, le notaire s'en fout, le coiffeur s'en fout, dégoûté, l'homme de bonne volonté. Se disait de moi, il n'y a plus que moi qui m'en fais, et j'ai le corps de mon père. Si chacun s'en fout, moi aussi je m'en fous, et tout le monde comme ça se fout de tout.
Et c'était en 1934 au théâtre de l'ABC. Vous étiez vraiment toute petite, hein, Françoise Dor.
Oui, j'étais toute petite. Mais maintenant que j'ai grandi, je peux dire qu'on pourrait chanter cette chanson maintenant.
Ah oui, vous trouvez que c'est d'actualité.
Beaucoup de vérité, beaucoup d'actualité. Et ça nous vient quelquefois à l'esprit dans notre vie quotidienne que tout le monde s'en fout, vraiment.
Tout le monde s'en fout.
Là, sauf c'est... nous. Sauf les artistes.
Bien
les
sûr. Artistes. Ils sont obligés d'être consciencieux.
Absolument.
Là, c'était votre père, donc René Dorin, avec on peut dire son ami Paul Colline.
Oui, ami et collaborateur, voilà. Paul Colline, absolument, voilà, qui était un homme exquis, charmant, plein d'esprit et de connaissances.
Ils ont enregistré pas mal de chansons ensemble.
Ils faisaient des duos ensemble. C'est le seul vraiment homme que papa a accepté comme collaborateur.
Voilà.
Et qui s'aimait beaucoup.
Donc là, nous sommes dans le milieu de ces grands chansonniers d'avant-guerre dont votre père a été une des plus grandes figures avant et après la guerre. D'ailleurs, on va y revenir. Mais alors donc, aujourd'hui, Françoise Dorin, après beaucoup d'œuvres dramatiques, romanesques et autres, vous avez choisi d'écrire justement sur votre père et en fait d'ouvrir une espèce de dialogue avec cet homme qui vous a quitté il y a déjà fort longtemps.
J'ai voulu donner une autre forme à cette biographie, justement, plus, à mon avis, originale, en faisant un dialogue, en établissant un dialogue entre mon père, qui est là-haut, et moi, qui suis en bas. Et c'est une espèce de discussion sur sa vie et sur la mienne, qui se trouve dans ce livre.
Voilà, c'est une forme très vivante, d'ailleurs, dans laquelle on se laisse emporter.
Oui, c'est pour ça. Et si vous voulez, quand vous faites une biographie, écrivez une biographie de quelqu'un, forcément, vous êtes appelé à faire des compliments, l'éloge sort de votre plume. Tandis que dans une discussion, dans un dialogue, je peux avoir des virulences, et lui aussi, car il ne s'en privait pas dans la vie ordinaire, et je les ai répercutées sur le papier.
Alors, une des choses qui est très frappante et qui nous intéresse doublement ici sur France Musique, dans ce livre-là, c'est qu'en fait, René Dorin a eu vraiment une enfance de jeune musicien. Il aurait pu faire une carrière de violoniste. Il était très, très doué. Et c'était vraiment, d'une certaine façon, sa première vocation.
Oh, mais grande vocation. Ouais. Et à 7 ans et demi, pour dire qu'il était vraiment...
Il est né en 1891.
Hein. Exactement, il était de la classe 11 voilà. À la guerre. Et ses parents étaient des paysans et marins. Habitant la Charente-Maritime à 5 km de La Rochelle. Et à 7 ans, il a déclaré à son père qu'il voulait être violoniste. C'était ahurissant. Moi qui ai connu la maison de mes grands-parents, plus que modeste, vraiment, ouais. Avec le puits, bon. Et son père lui a dit, mais on n'a pas d'argent pour acheter un violon. Et bon, il était tellement contrit à cette idée que son père lui a dit, écoutez bien ça, bon, eh bien, pour avoir ton violon, je travaillais un dimanche sur deux et maintenant je travaillerai tous les dimanches.
C'est pas extraordinaire, grave. La façon dont cette famille...
Voilà, c'est une histoire qu'on devrait répercuter un petit peu.
Et votre père, qui aussi, pour faire de la musique, faisait 10 kilomètres à pied, aller-retour, tous les jours.
À partir de 12 ans, après avoir fait donc de 7 ans à 12 ans, 5 années de violon avec un professeur villageois, qui, très honnêtement, au bout de 5 ans, dit « Moi, je n'ai plus rien à lui apprendre. Il faut qu'il aille à La Rochelle trouver un professeur plus à même de lui apprendre quelque chose. » Et mon père est allé à La Rochelle. C'est un professeur, effectivement, plus convaincant. Et il faisait à pied les 5 kilomètres aller, 5 kilomètres retour. Et quelquefois, quand il avait faim pour le déjeuner, il faisait aussi 5 kilomètres pour aller déjeuner, 5 kilomètres après le déjeuner, et de nouveau 10 kilomètres. Je dois vous dire que cette marche, il la faisait souvent en compagnie de sa sœur, qui rêvait, elle, d'être institutrice, qui l'a été, et qui la faisait chacun avec un exemplaire d'un classique français et qu'il jouait les plus grands classiques sur la route de La Rochelle à Nieul.
Et ça, on sent d'ailleurs bien ça dans ces enregistrements de chansonniers. C'est la culture qui sous-tend, au fond, tout cet art. Alors qu'il n'avait que le certificat d'études.
Et jamais une faute d'orthographe, ni jamais une faute de français. Il y a quand même quelque chose qui devrait faire réfléchir quelques-uns.
Alors, il est monté à Paris, finalement, dans l'armée, pour son service militaire, où il a continué à faire de la musique.
Oui, exactement. Il s'est engagé en 1913, et pour faire de la musique, pour entrer dans un régiment, avec l'idée de rentrer au conservatoire de musique, dès qu'il serait dégagé de ses engagements militaires. Et en fait, d'être dégagé,
évidemment, il appartient à une génération pour qui la guerre de 14 a été quelque chose de tellement considérable qui a changé le destin de tout le monde.
Oh là là. Et bon, il a été mobilisé et voilà, c'est pas dans les tranchées qu'il n'a pas quitté. Car les musiciens de l'armée dont il faisait partie n'avaient pas le droit d'être dans une section armée. Donc, il a été brancardier pendant 4 ans. Ouais. C'est-à-dire qu'il a été sur les champs de bataille avec un brancard et 3 autres camarades pour soulever les blessés, les demi-morts, il faut bien dire. Et tous les éclopés qui suppliaient. Est-ce que vous imaginez...
Ça explique peut-être pour une part le côté... cette espèce d'humour noir qui est aussi très présent dans ces textes et dans ces chansons.
Ça ne peut pas ne pas avoir marqué quelqu'un 4 ans passés parmi les morts. Quoi.
Ce qui ne l'empêchait pas de chanter cette chanson sur laquelle on va revenir parce qu'elle vous rappelle des souvenirs personnels qui s'intitule « Aucune importance ».
Nous menons une vie de galérien, nous nous donnons un mal de chien, nous dilapidons nos phosphates, sans cesse angoissés, frémissants, nous nous rongeons les foies, les sangs, nous nous rétrécissons la rate. Le ministère est renversé, il n'y a personne pour le remplacer, nous voilà plongés dans les transes, chacun s'écrit selon son rang, c'est odieux ou c'est embêtant, et ça n'a aucune importance. Ça commence quand on est gamin, voilà l'époque des examens. Dans 15 jours, c'est de la folie. Le professeur n'est pas content. En histoire, je suis pas épatant. Et je suis nul en géographie. On prend ses livres, on dort dessus. Ah mon Dieu, si je n'étais pas reçu, je serais foutu pour l'existence. Un cancre, un galeux, un pelé. Le grand jour arrive, on est recalé. Et ça n'a aucune importance. Conscience que l'employé de bureau fait un état des bordereaux. Qu'il copie en triple exemplaire, puis un bordereau des États dont il tire un duplicata pendant les heures supplémentaires. Tout cela dans des cartons verts, ronger des nœuds, mites, piquer des vers, s'entasse dans les greniers immenses des préfectures et des greffes, depuis Jeanne d'Arc ou Pépin le Bref, et ça n'a aucune importance. quand vient l'époque des élections, la foule s'agite avec passion, aux urnes, en avant, camarades, la cervelle chauffée à blanc, le peuple se tient tout tremblant, prêt à courir aux barricades. Les candidats dans la cité échangent leurs quatre vérités avec des trésors d'éloquence, salauds, cochons, traîtres, vendus, enfin l'un ou l'autre est élu. Et ça n'a aucune importance. Un jour, votre médecin vous dit « et là, mon petit ami, faut se mettre au régime, et tout de suite, au régime, docteur, ah vraiment, et l'on avale consciencieusement les nouilles à l'eau, la salade cuite. Ça dure des mois et des années, puis un soir, qu'on est mal luné, on se fait servir à bout de patience les meilleurs vins, les meilleurs plats, et l'on s'en fourre jusque-là. Et ça n'a aucune importance. » Monsieur le président du conseil, un jour à Lyon, l'autre à Marseille, voyez un peu la vie qu'il mène. Dans le train, à table, à l'enterrement, il faut qu'il parle à tout moment, le ventre vide ou la bouche pleine. À l'ambassadeur du Japon, à l'agent voyer du canton, sa vie s'épuise en conférence, si bien que du dimanche au lundi, on ne se rappelle plus ce qu'il a dit, et ça n'a aucune importance. Et puis, Henini, c'est fini, dans l'autre monde nous voici, et là, c'est une autre paire de manches. Seigneur, que va-t-il se passer? J'ai vécu comme un insensé, je n'allais pas à vêpres le dimanche. J'étais méchant, j'étais menteur, je n'ai jamais eu la croix d'honneur. Ah, j'en ai gros sur la conscience, mais survient le bon Dieu qui nous dit, entrez donc dans mon paradis, tout ça n'a aucune importance.
Et c'était René Dorin en 1932, vous la connaissez par cœur celle-là, Françoise
oui,
Dorin.
Je la sais par cœur et je vais vous dire pourquoi. C'est que en revenant de mon premier bac, il y avait deux bacs à ce moment-là, premier bac, et je dois dire que je l'ai raté complètement. Ouais. Et je n'étais pas extrêmement fière de rentrer à la maison pour annoncer ça à mon père. Et j'avais trouvé très amusant de lui chanter le deuxième couplet de cette chanson qui disait « Ah mon Dieu, si j'étais pas reçu, je serais foutu pour l'existence. Un cancre, un galeux, un pelé. Le grand jour arrive, on est recalé. Et ça n'a aucune importance. » Et voilà. Et moi, j'ai chanté ça dans le couloir en arrivant. Oui, je l'ai fait, bien sûr.
Il arrive.
Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Parce que c'était un chansonnier truculent peut-être, mais un père de famille qui était...
Exigeant.
Exigeant beaucoup moins, et que sa fille était recalée à la première partie de son bac, ça ne l'amusait pas du tout. Et il m'a dit, oui, alors on repasse en septembre, dans ces cas-là. Très bien, voilà. Et j'ai repassé en septembre et j'ai eu mon bac, voilà.
Qu'est-ce qui fait que René Dorin, étant monté à Paris pour devenir musicien, finalement est devenu chansonnier?
Eh bien, parce que il a fait 4 ans de guerre plus 1 an et demi d'occupation. Ouais. Et quand vous restez pratiquer le violon pendant 5 ans et demi, bon, vous n'avez plus la dextérité. Or, ce qui l'intéressait, lui, attention, c'était d'être Yehudi Mehouning
ou rien.
Donc, il a changé complètement de métier et de vue sur le monde. Il réussirait parce qu'il avait ça dans la tête, mais dans autre chose. Et comme sur le front, pendant la guerre, ses camarades, je ne sais pas comment, avaient décelé un goût pour les lettres et lui faisaient faire leur correspondance, il a continué à écrire, et là, des chansons. Et il a passé des auditions, plus ou moins glorieuses, et jusque-là, il n'avait pas trouvé à s'employer. Et il allait reprendre une place qu'il avait eue à La Rochelle de petit comptable dans une petite banque. Bon, tant pis, on verrait ce que serait l'avenir. Il est entré et il allait rentrer. Quand il a vu sur le pas de sa porte le plus grand des directeurs de chansonniers de Paris, c'y était Fursy, ça ne vous dit rien, mais c'était comme ça, et il lui a expliqué son histoire, dit « Voilà, monsieur, je vais signer un contrat pour être un petit fonctionnaire, mais en vérité, j'ai des chansons dans ma poche, est-ce que je pourrais vous les passer ?» Il a dit oui, il a dû bien s'y prendre. Le directeur a dit oui, il a passé son audition et il a été
Voilà. Et c'est là que sa carrière a vraiment commencé.
Et voilà, unique.
Et elle a été très vite, très brillante, puisque déjà en 1932, il était tête d'affiche au Casino de Paris avec Joséphine Baker.
Oui, c'est incroyable.
Alors lui, comme chansonnier plutôt politique et sociale, et elle, comme évidemment vedette de la revue.
Vous vous rendez compte, un chansonnier en smoking, attention à ce moment-là, à côté de Joséphine Baker avec sa ceinture de banane, sa coiffure vertigineuse, etc. Ouais. Et attention...
On les voit danser ensemble sur certaines photos de la revue, d'ailleurs.
Oui, en maillot, ce qui, à l'époque, était déjà un peu osé. Voilà, et c'était très, très amusant, ça a eu un succès fou.
À côté de ses numéros de chansonnier, il est aussi devenu donc, un parolier célèbre dans le domaine de l'opérette, avec une première opérette oubliée qui s'appelait « Une nuit au Louvre » en 1928, et puis surtout... L'Auberge du Cheval Blanc, dont il a fait l'adaptation française.
C'est incroyable, ça, comme succès. Il ne s'y attendait pas. Il a fait tous les couplets et les dialogues de la pièce. Tout est de lui.
Ah oui, les dialogues et les lyrics,
tout,
les deux.
Tous
oui,
les lyrics, oui. tout. Et à chaque fois qu'une chanson de l'Auberge du Cheval Blanc passait à la radio, les enfants que nous étions, mon frère et moi, disaient « Ah, papa touche des droits bon. !» Et après, c'est passé à ma petite fille qui dit « Ah, papy touche des droits !»
Et oui, parce que c'est pas encore dans le domaine public.
Mais bien sûr,
ah, voilà.
Bien sûr, nous avons quelques profits.
Malheureusement,
minimes,
on joue
minimes.
Un peu moins l'Auberge du Cheval Blanc aujourd'hui.
Absolument.
Mais on va quand même retrouver un extrait de la version de la création française, donc avec les paroles de René Dorin.
Si vous le voulez, demain, nous partons de bon matin.
Être seul avec vous, mon cœur bat très fort.
Donnons-nous rendez-vous, rendez-vous au port. Je vous emmènerai sur mon joli bateau. Voguer au fil de l'eau, il n'est rien de plus beau. Que d'être rêvant contre la voile blanche qui frémit et se penche au gré du vent. La barque frêle ouvre son aile, roule et chancelle, puis va glissant comme l'oiseau. Vaguer au fil de l'eau, il n'est rien de plus beau. Je vous emmènerai sur mon bateau. En gris, vous aurez mon cœur.
Votre cœur pour abri, malgré moi j'ai peur.
Je vous emmènerai sur mon joli bateau. Voguer au fil de l'eau, il n'est rien de plus beau que d'être du rêve contre la voile blanche qui frémit et se penche au gré du vent. La barque est frêle. Ouvre son aile, roule et chancelle, puis va glissant comme un oiseau. Voguer au fil de l'eau, il n'est rien de plus beau. Je vous emmènerai sur mon bateau.
Et Et c'était le 26 septembre 1932, cet enregistrement avec Hélène Régély du Théâtre Mogador et Monsieur Jouatte,
oui,
dont vous parlez dans votre livre, François Dorin, qui était un vieux camarade de régiment de votre père.
Exactement. Voilà. Mais Georges Jouatte, qui était un grand chanteur d'opéra, et on m'a demandé, pas plus tard qu'hier, pourquoi je ne donnais pas d'autres noms, plusieurs noms, etc. Parce que les gens ne connaissent plus ceux qui ont été célèbres il y a pas mal d'années, mais Georges Jouatte, j'en ai tellement entendu parler, et puis quand même, c'était un chanteur de l'opéra, et voilà, il y a des gens qui le connaissent
encore. Alors, petite parenthèse aussi, parce que vous nous avez bien dit que vous n'étiez pas du tout musicienne, il n'empêche que vous avez quand même chanté pour des disques, vous avez chanté l'opérette, vous, Françoise Dorin, en compagnie de deux de vos amis, Pierrette Souplex et
Suzanne Gabriello.
Suzanne Gabriello, qui étaient donc, elles aussi, deux filles de chansonniers.
Oui.
Et quand vous étiez jeune fille, vous avez monté un groupe toutes les trois.
Oui, exactement, qui s'appelait Les Filles à Papa.
Les filles à papa.
À propos d'un gala qui s'appelait le Gala des Chanceliers, où on faisait les numéros les uns après les autres pour récolter des fonds et les distribuer après aux chansonniers nécessaires.
Si vous voulez dire qu'on peut ne rien comprendre à la musique, mais avoir la voix juste quand même.
Oh oui, mais pas sans mal. On était extrêmement consciencieuse. Et si vous voulez que je vous raconte une histoire, nous avons pu enregistrer avec Maurice Chevalier un rien.
Dans Dédé.
Dans Dédé et dans Là-haut. Oui. Et comme nous étions vraiment très consciencieuses, absolument sans talent, mais consciencieuses, nous avions appris notre partition par cœur, car on avait le contre-chant. C'était évidemment Chevalier qui chantait la grande ligne de chant et nous, le contre-chant derrière. Et on avait appris notre contre-chant par cœur, avec beaucoup de ténacité. Et quand il s'est agi de l'enregistrement, Chevalier a vu tout d'un coup trois jeunes filles, nous, les filles à papa, en train de se boucher les oreilles pour ne pas entendre ce qu'ils chantaient, c'est-à-dire la ligne de chant. Il s'est arrêté, mais suffoqué de voir ce qu'il voyait. Il dit, mais pourquoi vous bouchez-vous les oreilles? Et on lui a dit, pour ne pas vous entendre, parce que sinon
on va se perdre.
On va se perdre. Ça l'a fait rire au possible. Et c'est comme ça qu'on a enregistré avec les doigts dans les oreilles.
Et voici maintenant, à propos de l'autorité, du goût de l'autorité, et de l'esprit de servitude qui sévissent parallèlement dans le monde et chez nous, et pendant qu'il en est temps encore, c'est-à-dire avant qu'ayant tous été mis au pas, nous n'ayons même plus le droit de dire que nous y sommes, une petite chanson que je vais avoir le plaisir de vous chanter et que j'intitulais « Au pas, camarade », et qui est une sorte de cauchemar que je fais parfois tout éveillé. Au pas, tu t'y mettras, camarade. Au pas, camarade. Au pas, si tu ne veux pas t'y mettre, on t'y mettra. Au pas, camarade. Au pas, que je rêve encore ou que je me réveille, c'est comme une voix qui me parle à l'oreille, s'impose à mes sens, à mon attention, et qui me revient comme une obsession. Au pas, tu t'y mettras, camarade. Au pas, camarade. Au pas, si tu ne veux pas t'y mettre, on t'y mettra. Au pas, camarade. Au pas, et c'est une voix aux multiples figures de tous les tyrans, toutes les dictatures. Chacun nos couplets reprend sa chanson et tout le monde en chœur chante à l'unisson. Opa, opa, tu les aimais bien les petites maisons, aux parquets solides, aux épaisses cloisons. Eh bien c'est fini, tu vas apprécier les modèles courants ou le Corbusier. Ah ah. Que tu sois du pont, du val ou du rang, défense de marché en dehors du rang, nous voulons voir tout le monde au même niveau et téléguidé par un même cerveau. Nous avons un idéal de robot. Nous y allons et nous verrons comme nous voyons les maisons, les hommes de même dimension, tenant les femmes à leurs bras comme nous les voyons déjà quand elles font du cinéma, avec toutes les mêmes nez, mêmes hanches et mêmes nénés, mêmes cuisses et mêmes croupions. Nous y allons. Que nous voulions ou non nous y soumettre, Christian Dior a déclaré, j'ai dit le bas de la robe à 40 cm, et tout le monde coupe, ajuste et raccourcit.
comme on faisait autrefois pour le beurre, aux portes des commerçants du quartier. Chez le percepteur, pendant de longues heures, on fait la queue maintenant pour payer. Les haut-parleurs clament sous nos fenêtres des ordres brefs, impérieux et confus. L'américain, l'anglais parlent en maître. Le russe attend son heure au coin de la rue. Dans un pays libre comme le nôtre, l'homme traqué déjà se sent perdu. Nos libertés s'en vont l'une après l'autre. Où allons-nous? La voix m'a répondu. Opa, opa, tu t'y mettras, camarade. Quand les chemins de fer, les postes et le nettoyage étaient en grève et que j'étais en voyage, je me suis tapé tout leur ouvrage et je suis rentré de Pithiviers à pied. Opa, opa, tu t'y mettras, camarade. Puis sont venus les grands anonymats, les sigles obscurs de tous les formats où l'on distinguait les lettres magiques du Centre de Réforme Officielle Technique. C-R-O-T, crotte. Un nom symbolique. Et je leur ai dit, j'en ai plein les bottes, je ne marche pas, surtout dans la crotte. Ils m'ont répondu, fais comme tu voudras, un jour tu y marcheras. Opa, opa, tu t'y mettras, camarade. Alors j'ai hurlé, c'est de la démence, je vais vous chanter une autre romance. Mignonne, quand le soir descendra sur la terre et que le rossignol... La voix m'a dit non, non, non. Oh, oh, pas du Dimitra, camarade. J'ai chanté plus fort les chansons que j'aime. La voix disait non, j'ai chanté quand même. Ceux qui voudront s'en aller s'en iront. Non. Oh, pas du Dimitra, camarade. Alors succombant sous le poids et le nombre, j'ai cherché refuge au royaume des ombres. Pendant qu'alentour sans fin reproduit, le chant triomphant montait dans la nuit. Oh, oh, pas du Dimitra, camarade. Et depuis ce temps que je rêve ou m'éveille, j'ai tellement eu ce refrain dans l'oreille que je me surprends malgré moi tout bas à reprendre en cœur en emboîtant le pas. Opa, opa, tu t'y mettras, camarade. Opa, opa, camarade, opa. Si tu ne veux pas t'y mettre, on t'y mettra. Opa, camarade, opa, opa.
Voilà, là on retrouve René Dorin, donc après la guerre, hein, dans un enregistrement plus moderne. D'ailleurs, il évoque Christian Dior, la nouvelle société, sur un ton assez critique. Hein,
oui, mais c'est gentil et c'est bien de votre part d'avoir laissé les applaudissements après la chanson. Parce que effectivement, je me souviens, malgré le jeune âge que j'avais à l'époque, que la salle croulait en applaudissements, comme si vraiment ils comprenaient ce qui allait se passer de au pas, camarade, et ils étaient totalement d'accord avec mon père.
Voilà, mes chansons, donc je le dis, hein, très critiques, et il y a un terme pour ça qu'on emploie parfois, on dit anard de droite.
Est-ce que
vous trouvez que ça lui correspond bien?
Oui, c'était un homme libre, totalement libre de ses pensées, il disait vraiment ce qu'il avait sur le cœur. Et étant donné ses origines plus que modestes, on peut dire que c'était un anard de droite.
Vous avez suivi évidemment ses tours de chant jusqu'à la fin de sa vie, c'est-à-dire il a continué à chanter à peu près jusqu'au milieu des années 60.
Oui, c'est ça à peu près. Mais vous savez, j'avais à ce moment-là d'autres soucis en tête.
Et vous étiez une jeune fille.
Voilà, j'étais une jeune fille. Je regardais un petit peu autour de moi. Et Dieu soit loué, autour de moi, on regardait un petit peu aussi la jeune fille que j'étais. Et voilà, je me détachais un petit peu des activités de mon père.
Oui, mais alors dans ce dialogue que vous avez noué, ce dialogue posthume avec lui, est-ce que lui-même, de son côté, lui a suivi avec intérêt vos débuts d'artiste?
Ah oui. Mais bon, il a attendu comme moi 20 ans et avec une patience et sans jamais me dire, plutôt en m'encourageant, tu sais, dans ce métier, il faut attendre, il faut savoir. Bon, et effectivement, un jour, le grand jour pour moi est arrivé avec, comme vous le savez, la chanson de...
Que c'est triste Venise, voilà, qu'on a évoqué évidemment.
Exactement, qui a complètement fait basculer.
Ça a été vraiment ça le basculement.
Ah mais complètement.
Ah oui, d'accord.
Complètement un basculement systématique, voilà. Et sinon, j'étais complètement dans le... dans le marasme.
Je voudrais revenir sur une des amitiés nombreuses qui ont marqué votre vie et votre carrière, à vous-même, Françoise Dorin. C'est celle des Branquignoles et notamment de Colette Brosset, qu'on avait eu le plaisir de recevoir ici dans cette émission, et qui, elle aussi, puisque vous avez écrit des chansons pour les Branquignoles, on va en écouter une, mais elle aussi, Colette Brosset, ça rattache à l'histoire de votre père.
Ah, mais complètement.
Avec le son d'une génération.
Ça vient des deux pères, le père de Colette et notre père à mon frère et à moi. Ouais. Et parce que ils ont fait la guerre ensemble, tout simplement.
Voilà, tout simplement.
La guerre de 14. Bon, ce sont quand même des années qui lient des hommes et ils sont restés liés après. Et ils ont trouvé deux appartements bien modestes, l'un au quatrième et l'autre au cinquième étage. Et les deux femmes ils étaient mariés l'un et l'autre, ont été enceintes, mais à un mois d'intervalle. Si bien que les deux femmes échangeaient les bébés, les avaient au sein, les nourrissaient au sein, d'un étage à l'autre. Quand il y en avait un couple qui avait envie de sortir, hop, on descendait ou on montait le bébé, selon le cas,
Donc c'était presque une sœur, Colette Brosset.
Oui, tout à fait. Ah, c'était la sœur de mon frère, la sœur de lait de mon frère. Ils se sont appelés comme ça pendant toute leur enfance et même pendant qu'ils étaient des jeunes gens. Ah tiens, voilà ma sœur de lait, voilà mon frère de lait.
On va retrouver Colette Brosset et Robert Derry dans une des chansons que vous avez écrites pour eux, dans « Vos gueules les mouettes ».
Allô, allô, allô mon amour, mon ami, ma tendresse.
Allô mon amour, mon ami, ma tendresse.
Oui, tu es tout ça, mes vieux jours, ma jeunesse.
Oui, tu es tout ça, mes vieux jours, ma jeunesse.
Ce que je fais en t'attendant, mais mon Dieu, je t'attends. C'est fou ce que ça prend du temps.
C'est fou ce que ça prend du temps.
Je ne fais plus rien dans ma vie sans penser à toi.
Sans penser à toi.
Ce matin, j'ai refait le lit en pensant à toi.
En pensant à toi.
Et puis j'ai lavé mes cheveux en pensant à toi.
En pensant à toi.
Et après avoir pris deux œufs en pensant à toi.
En pensant à toi.
Je suis allée chez les Grimaud.
En pensant à toi.
Ils viennent d'avoir des jumeaux.
En pensant à toi.
Allô, quoi? Bien sûr, mon amour.
Et voilà Colette Brosset et Robert Derry, deux de vos grands amis, Françoise
bien
Dorin.
Bien sûr, et chantant merveilleusement bien une chanson que j'avais écrite pour eux.
Pour eux, alors voilà, il va falloir que vous reveniez un jour, qu'on parle encore de tellement de choses qu'on doit voir ensemble. Là, on va bientôt devoir se quitter, mais d'abord, je redis combien j'ai eu de plaisir à découvrir la vie de votre père dans ce dialogue que vous avez créé avec lui dans Prête-moi ta vie pour t'écrire là-haut.
Effectivement beaucoup de choses, de moins un à plus beaucoup.
Voilà. Et puis, puisqu'on a commencé avec votre père, je voudrais terminer avec votre mari, qui chante un peu de temps en temps aussi.
Comment, si vous faites allusion à Jean-Pierre?
Oui.
Absolument. Il adore chanter, il chante très bien et il a enregistré plusieurs chansons dont j'ai écrit les paroles.
Et donc les gènes musicaux qui ne sont pas passés par vous se retrouvent encore à la génération suivante.
Exactement,
chez vos enfants.
Poursuivi par la musique, alors que je la fuis vraiment. Et je suis quand même très heureuse d'entendre les chansons, surtout quand elles sont dites et qu'on entend bien les paroles.
Et qu'on entend bien les paroles. Vous avez insisté là-dessus tout à l'heure quand on écoutait René Dorin, hein, la qualité de la diction.
Mais vous vous rendez compte?
Oui.
Et qu'il a chanté à l'Olympia, qu'il a chanté à l'Empire, vous voyez l'ampleur des salles, qu'il a chanté juste avec un piano.
Sans micro, à l'Olympia.
Mais sans micro,
oui, ça
n'existait pas.
Simplement.
Ça n'existait pas. Et lui trouvait ça parfaitement normal. Il faut dire qu'il avait une voix très bien timbrée et surtout une prononciation qu'on m'a reprochée quelquefois à moi.
Voilà.
Que j'ai hérité de lui, effectivement.
Pour terminer, avant d'écouter cette chanson chantée par Jean-Pierre, très très jolie, vous avez fait un spectacle ensemble tout récemment à la Comédie des Champs-Élysées.
Oui, absolument.
Que vous avez écrit pour lui.
C'est très drôle parce qu'il part demain en tournée, va commencer par la ville de Lyon. Voilà. Et il va faire un tour de France avec...
Et c'est quoi le fil conducteur du spectacle?
Oh, ça s'appelle « Vous avez quel âge ?»
Oui.
Vous voyez? Et on comprend très bien de quoi ça peut parler, non?
Ah, un vaste sujet qui nous intéresse aussi beaucoup. Merci beaucoup, Françoise Dorin. Et puis, vous savez que vous êtes toujours bienvenue ici. C'est un plaisir de parler avec vous.
Ne dites pas ça, je vais venir la semaine prochaine.
Et on sera à Aix-en-Provence.
Alors, c'est un peu là. J'attendrai que vous reveniez. Au revoir et merci de m'avoir accueilli.
Merci, à bientôt.
Avant d'emménager dans mon nouveau bonheur, je voudrais tout ranger, mettre en ordre mon cœur. Dans un coffre, je jette mes aveux, mes serments, tous les mots un peu bêtes qui m'ont servi souvent, mes passions clandestines, les flirts de mes 20 ans, Anne, Claire et Martine, que j'aimais bien pour autant. Mais malgré moi, j'en rage, car quand j'ai chaque fois bouclé tous mes bagages, alors je m'aperçois qu'il y a toujours un vieil amour qui dépasse de mon cœur et qui m'empêche de le fermer pour l'emporter ailleurs. Avant d'emménager dans mon nouvel amour, il me faut alléger mon cœur encore trop lourd. Je jette sans rien dire tous les premiers instants, tous les derniers sourires auxquels je te... Je jette mes silences, mes regards entendus, mes rires de vacances et mes moments perdus. Je vis de ma mémoire, mais j'ai beau entasser les plus belles histoires qui firent mon passé. Dépasse de mon cœur et qui m'empêche de le fermer pour l'emporter ailleurs. Il y a toujours ce vieil amour qui dépasse de mon cœur et qui m'empêche de le fermer pour l'emporter ailleurs.
Mais il y a toujours un vieil amour, c'était Jean-Pierre qui chantait les paroles de Françoise Dorin dans « Étonnez-moi Benoît » du 26 février 2011. Et avant de nous quitter, je vous propose de retrouver une œuvre trop rare, le très joli concertino pour piano et orchestre d'Arthur Honegger, une œuvre de 1924, assez éloignée alors des grandes compositions graves, voire tragiques d'Honegger. Ce compositeur aimait aussi beaucoup le divertissement, l'opérette, la musique populaire. Ici, il s'aventure presque jusqu'aux limites du jazz. En tout cas, c'est une très belle composition qu'on va écouter par Jean-Yves Thibaudet au piano et l'orchestre de Montréal, sous la direction de Charles Dutoit.
Arthur Honegger, le concertino pour piano et orchestre par Jean-Yves Thibaudet, avec l'orchestre de Montréal sous la direction de Charles Dutoit. Samedi prochain, ce sera le dernier de nos rendez-vous pour les rediffusions d'Étonnez-moi Benoît. J'ai rendu hommage à beaucoup d'artistes disparus. Je suis heureux de terminer avec un artiste bien vivant et bien en activité parmi nous, puisque je serai en compagnie de Serge Lama.
À réécouter sur francemusique.fr.